Bonjour et bienvenue au show radio Minter Dialogue, émission numéro 59. Cette émission est avec Guillaume Sompic, un entrepreneur et de toute évidence un homme du web. Précédemment directeur général de SeniorPlanet.fr, portail d'actu pour les plus de 50 ans, et avant cela DG web du groupe Psychologie Magazine, il est désormais VP Analytics et Business Intelligence chez Yazino. Yazino, c'est quoi? C'est un fabricant de jeux sociaux, social gaming, in sync et très innovant. Ils sont leaders sur ce créneau excitant qui attire beaucoup d'attention chez les VC, autrement dit les capital risk, et grandit à son pas arrêté. Vous y trouverez plein de bonnes idées pour les personnes dans le marketing et le marketing digital en particulier. Allons-y alors, à l'entretien. Bonjour et bienvenue sur l'émission radio téléchargeable Minter Dialogue où on parle des marques, de l'internet et les nouvelles technologies. Je suis Minter Dial, votre compère pour cette émission radio téléchargeable, autrement dit un podcast. Je suis auteur du blog MinterDial.fr où vous trouverez les show notes pour l'entretien qui suit avec l'ensemble des sites et des liens cités dans l'émission. Si vous lisez anglais, j'ai également mon blog en anglais TheMindset.com, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T. Plongeons alors dans cette nouvelle émission de Minter Dialogue. Bonjour et bienvenue au show radio Minter Dialogue. Aujourd'hui, belle journée à Paris, on est le 23 mars et je suis avec Guillaume Sompic. Alors Guillaume Sompic, c'est quelqu'un de très intéressant que j'ai rencontré grâce à mes bobos de genoux, qui est aujourd'hui, il s'occupe d'Analytics et BI, Business Intelligence, de Yazino. Il a aussi un homme du net qui a été DG de Senior Planet, si vous connaissez, également de Groupe Psychologie et Internet, donc une belle référence. Et aujourd'hui, il s'occupe du développement de Yazino. Alors, Guillaume, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ce que c'est Yazino?
Bonjour, donc Guillaume Sompic, je suis français. Pas comme Winter.
L'accent qui dévoile tout.
Voilà. Non, je ne vous parle pas anglais. Moi, ça fait une quinzaine d'années que j'évolue dans le monde du web, où j'ai géré plusieurs sociétés, comme Winter l'a précisé. Des sites de rencontres, des sites de ICRM, des sites médias féminins, des sites pour les seniors. Et depuis 2 ans, donc, je me suis mis à mon compte et j'ai notamment investi, à titre personnel, dans une société que je situe à Londres, puisque les équipes sont à Londres, même si la maison mère est basée en Suisse, qui fait des jeux sociaux. Alors, en général, on dit jeux sociaux, qui dit jeux sociaux dit Facebook, mais pas forcément dans notre cas, même si on travaille beaucoup avec Facebook. On est multiplateforme, multijoueur, et c'est ce qu'on appelle des jeux synchrones, essentiellement autour de la thématique du casino.
Alors, c'est un espace, on peut dire, qui est très chaud et très d'actualité. Mmh. Et le côté jeu, vous avez combien de jeux? Explique-nous un peu plus si c'est un jeu où on peut gagner de l'argent ou pas.
Alors, c'est effectivement de hot topic actuellement, puisque certains de nos principaux concurrents se sont fait racheter après quelques mois seulement d'activité. Il y a beaucoup d'initiatives, notamment sur la place de Londres et de San Francisco, sur tout ce qui est casino en ligne. Alors, je parle bien de casino en ligne, ce qu'on appelle ça du play for fun. Donc, c'est là, on peut éventuellement jouer un petit peu d'argent, mais on ne gagne jamais d'argent. C'est la grande différence avec le gambling. En France, depuis 2 ans, le gambling est réglementé. Vous devez avoir une licence pour pouvoir faire du sport betting, pour faire du poker en ligne. Les gens jouent de l'argent, mais pour gagner de l'argent. Dans le cadre de ce qu'on appelle des jeux sociaux, on joue, c'est gratuit. Un moment, si on n'a plus de monnaie du jeu en question, dans notre cas des chips, on peut en acheter. Mais par contre, en échange, on ne gagne pas d'argent. On gagne éventuellement des médailles, on gagne le fait, un peu comme chez McDonald's, d'être le joueur de la semaine ou l'employé du mois. Et surtout, on passe du temps à s'amuser sur des jeux multijoueurs.
Donc, on donne du liquide, mais en retour, on a des compliments, du kudos. Alors, et du fun, bien sûr. Alors, et de la communauté, par ailleurs. Donc, explique-nous un peu les jeux, parce qu'il y en a un certain nombre de jeux qui sont sur la plateforme.
Alors, nous, ce sont des jeux... On n'a pas vocation à créer des jeux... from scratch, comme disent nos amis anglo-saxons. L'idée, c'est systématiquement de prendre des jeux qui, pour la plupart, sont millénaires. On est, par exemple, en train de travailler sur des problématiques, par exemple, de Mahjong, de Domino. Mais systématiquement, de prendre des jeux qui se jouent à plusieurs, des vrais jeux sociaux, au sens premier du terme. Donc, on ne va pas travailler, par exemple, le solitaire. Et ces jeux, l'idée, c'est de leur coller l'ADN Yasino, l'ADN Yasino, encore une fois multijoueur, jeu synchrone. Alors juste une petite parenthèse pour préciser, parce que synchrone, asynchrone, ça fait très professionnel, très expert du web ou de la technologie, mais juste pour expliquer ce que c'est. La plupart des jeux sur Facebook ou les jeux sociaux ne sont pas synchrones, c'est-à-dire ne sont pas en temps réel. Mmh. C'est-à-dire que vous jouez, mais vous jouez seul souvent, quand vous gérez votre parc de vaches ou de tracteurs sur Farmville, vous faites parfois appel à vos amis pour vous aider à acheter des vaches ou du foin. Mais voilà, c'est la seule relation sociale qu'il y a vraiment dans ce type de jeu. Il y a d'autres types de jeux, mais qui représentent une faible minorité, mais qui a vraiment le vent en poupe. Même le leader mondial Zynga commence à s'y mettre. Ce sont donc des jeux synchrones où on est plusieurs à jouer en même temps sur le même jeu. Mm-hmm. Donc je prends un exemple concret dans notre cas, Slots Will Deal, qui est une machine à sous. Vous ne jouez pas contre la machine, comme ça se fait en général. Vous jouez à 12 autour de la même machine et on se tire la bourre à 12 pour déloquer une roue de la fortune.
Alors les autres 12 personnes, c'est des gens anonymes, comment ça se crée ?
Alors ce sont des gens qu'on a recrutés souvent via Facebook, mais pas exclusivement. Sur ce jeu particulièrement, nous on est une société anglo-saxonne, on a des jeux pour l'instant uniquement en anglais, donc c'est vrai qu'on a plutôt fait du marketing en Australie, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada. Et c'est vrai que ce jeu, typiquement, le joueur lambda ou le joueur représentatif, c'est une femme américaine de 40 ans, qui travaille, même si elle passe beaucoup de temps sur nos jeux. Et donc, ce sont des gens qui viennent quand même de différents horizons. Donc, on se met à la même table que ces gens-là. On peut se faire des amis dans le cadre de ce jeu, et donc les afficher comme tels, et les rejoindre. Demain, je vais jouer, par exemple, à Blackjack. Je vois que Minter joue aussi à une table de Blackjack. Je peux aller jouer en même temps que lui sur la même table. Je peux aussi créer ma propre table et inviter mes amis. Et c'est quelque chose qu'on a d'ailleurs pas mal développé, cette notion de communauté, puisque on a 450 000 fans, mais on a 3,5 millions de joueurs enregistrés, on a à peu près 200 000 joueurs tous les jours, donc c'est pas mal, ça va vite grossir. Et c'est vrai qu'à un moment, il faut que les gens puissent s'y retrouver aussi. Donc on est en train de mettre en place des filtres suivant la langue, suivant les centres d'intérêt, suivant, par exemple, à Londres en ce moment, on discute pas mal sur des problématiques de fans de clubs de foot. La table de Blackjack de Arsenal contre celle de Chelsea. Et c'est ce que recherchent les gens. C'est ce que proposent nos jeux, c'est ce côté très compétitif. On se tire la bourre, idéalement avec des amis, et c'est là qu'il y a le plus de fun.
Donc, sur les 3 500 000, vous avez plus de femmes que d'hommes, c'est ça ?
Alors, oui. Étonnamment, non, puisque dans les jeux sociaux, au contraire du gambling, ce sont surtout des femmes qui jouent. En moyenne, on est plutôt 55-45, 55% de femmes, et plutôt une moyenne d'âge qui est beaucoup plus élevé que ce qu'on pourrait penser. On est sur une moyenne d'âge de 43 ans chez nous. Et ce n'est pas spécifique à Yasino, puisque en discutant avec les gens de Playfish ou de Zynga, on est à peu près dans les mêmes tranches d'âge. Après, ça dépend des jeux, bien évidemment. Le poker, notre Texas Hold'em ou notre roulette sont plus jeunes et plus masculins. Mm-hmm. Par contre, les slots, oui, très clairement, c'est à 75% des femmes et plutôt de plus de 30 ans.
Alors, sur l'ensemble des membres, combien, en fait, participent à votre revenu, c'est-à-dire qu'ils contribuent des sous ?
Alors, c'est un business, on l'appelle freemium, donc tout est gratuit. Vous téléchargez l'application sur iPhone, par exemple, gratuitement. Vous jouez sur le web gratuitement. Vous revenez tous les jours, vous gagnez des chips gratuitement. Vous invitez des gens, vous nous aidez donc à recruter, on vous offre des chips. On fait plein de concours sur Facebook où vous pouvez, moyennant des trivia, des petits questionnaires, gagner des chips. Néanmoins, à un moment, si vous n'avez plus de chips et que vous voulez continuer à jouer, eh bien, vous avez la possibilité d'acheter des packages de chips, donc 10 000 chips pour 3 euros, par exemple, etc. etc. Donc, dans les jeux sociaux, en général, un jeu social, même un jeu comme Farmville, des jeux de Zynga, leader mondial, il y a à peu près entre 3 et 5 à 6% des gens qu'on monétise. Mmh. Eh bien, nous, c'est pareil, on a à peu près 3 à 4% de nos joueurs qui vont procéder à un achat à un moment ou à un autre.
Aujourd'hui, il doit y avoir quand même quelques-unes qui ont gagné beaucoup de chips. Alors, qu'est-ce qu'ils font ?
Alors, étonnamment, effectivement, et c'est une petite étude qu'on a menée récemment, puisque je m'occupe notamment du business intelligence, c'est qu'on était persuadé que les gens qui procédaient à des achats, c'est ceux qui jouaient et qui n'avaient plus de chips. Et bien, récemment, on a fait quelques opérations de promotion et nos plus gros acheteurs ont été ceux qui avaient déjà un portefeuille de chips de plusieurs millions. Donc, c'est des gens qui font des réserves pour l'hiver. Voilà. Donc, ce qui est aussi assez étonnant, c'est qu'on monétise vraiment bien sur Yasino. Et ça, on discute souvent avec nos amis concurrents. On a une capacité de monétisation bien supérieure. Pourquoi? Parce que les jeux sont de bonne qualité, bien évidemment, mais l'engagement, etc. On a des gens qui jouent depuis 18 mois avec nous sur le même jeu. Et on monétise en moyenne 3-4 fois mieux que des jeux, même souvent concurrents. Je donne un exemple. Moi, j'avais fait le business plan au départ en me disant qu'un achat, en moyenne, on va faire un achat fera 5 dollars. Je parle en dollars puisqu'on est beaucoup à 80% sur les US. Résultat des courses, le panier moyen d'achat est de 25 dollars, ce qui change fondamentalement la donne. Donc, même si nous n'avons que 2, 3, 4, 5% de gens qui achètent, et ça sera difficile d'aller au-delà, excepté en monétisant via de la publicité, mais ça reste relativement réduit. C'est un business intéressant et qui, moi qui ai une petite expérience dans le gambling avant, étonnamment, est très assez comparable en termes de monétisation à ce qu'on trouve dans le gambling. Un joueur de gambling, quelqu'un qui joue au poker online, qui joue de l'argent pour gagner de l'argent, va rapporter, grosso modo, à un opérateur classique de gambling autour de 200 à 300 euros par an. Eh bien, nous, on est à peu près dans les mêmes eaux avec nos jeux sociaux.
Alors, pour Yazino, tu m'as parlé de la plateforme des Yazino. Qu'est-ce qui fait la différence par rapport aux concurrents? Tu peux nous expliquer un peu ce qui fait la différence de Yazino et la plateforme derrière?
Alors, sur Yazino en particulier, il faut savoir que c'est vraiment initialement une société de technologie. C'est une société qui fournissait de la technologie pour les opérateurs de gambling, Ladbrokes, Stan James, Absolute Poker. Donc, c'est vraiment des gens des technologistes, comme ils s'appellent. Et cette plateforme a nécessité plus de 3 ans de développement. On n'était pas 250 à développer, mais on était une bonne quinzaine quand même, non pas dans un garage au fin fond de Londres, mais dans des beaux bureaux, puisqu'on avait eu la chance de lever pas mal d'argent. Donc on a vraiment développé une solution complètement in-house et complètement propriétaire, ce qui n'est pas anodin dans notre business. Et c'est une solution qu'on a voulu dès le départ, je reprends souvent cette expression, plateforme agnostique, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas être lié à un impératif, voilà, aux impératifs d'une plateforme en particulier, pour ne pas le nommer par exemple Facebook. Donc on a voulu dès le départ développer un moteur qui permette ensuite facilement de développer un nouveau jeu en quelques semaines, de développer une nouvelle langue en quelques jours, de mettre un jeu existant sur une nouvelle plateforme en quelques semaines et pas à chaque fois avoir à repartir de zéro, comme c'est souvent le cas dans ce business où en général un jeu est associé à un moteur. Nous on a, je schématise, mais un gros moteur. Des back-office, des problématiques de viralité, etc., etc., qu'on retrouve dans tous nos jeux. Donc, quand on change quelque chose, eh bien, les 7 jeux, puisqu'on a 7 jeux actuellement, vont en profiter.
Alors, s'il y a un nouveau média social qui vient d'arriver, on va dire Google Plus ou Pinterest, à combien est-ce que votre plateforme permet d'intégrer ou de la viralité sur ces nouvelles plateformes?
En tout cas, alors, on n'a pas encore vraiment ce qu'on a creusé. On est déjà sur un point com. On est sorti de Facebook le 1er novembre l'année dernière. Même
Ça a dû être un gros moment, ça.
Oui, ça a été un gros moment, mais ça a été une discussion surtout âpre avec eux pendant plusieurs mois, puisqu'on a un deal un peu européen avec eux, parce qu'on est un gros investisseur en termes de marketing chez eux. Mais on n'avait pas forcément envie d'abandonner, en plus du budget marketing, d'abandonner 30% de nos revenus à Facebook. Donc on a décidé de sortir, sachant qu'on n'a jamais été complètement sur Facebook. On avait une partie des jeux.
Oui,
Voilà. Mais ensuite, on partait jouer sur un point com. Donc, on a décidé de sortir complètement de Facebook, même s'il est envisageable qu'on y revienne dans quelques mois. Et donc, dès le départ, la plateforme a été prévue justement pour ne pas être dépendant. Et surtout, Facebook, qui est une super média sociale, mais qui a quand même tendance à changer ses règles assez régulièrement. Pour connaître des amis concurrents qui ne sont que sur Facebook, qui s'arrachent un peu les cheveux justement à toujours avoir à veiller sur les nouveautés de Facebook. Et donc, notre plateforme, pour prendre la question, elle permet facilement d'adapter nos jeux à de nouvelles plateformes. Et précisément sur Google+, on n'a pas encore regardé leurs API ou leur kit de développement. Et on n'est pas sûr non plus de vouloir y aller dans l'immédiat. On va quand même attendre. Comme on est sur du jeu social, il faut quand même qu'en face, il y ait de la masse. On n'est pas sur du jeu payant. Donc il faut qu'il y ait de la masse pour qu'à la fin, 2-3% des gens achètent. Sinon, ce n'est pas rentable. Donc on est sur .com, bien évidemment, même si on le pousse via Facebook. On est sur iOS, qui en 3-4 mois, depuis qu'on a lancé 2 jeux sur iOS, représente déjà 30% de nos revenus, ce qui est juste exceptionnel. Donc comme quoi, l'avenir, bon, on le sait tous, mais l'avenir, c'est le mobile. Et puis Android bientôt, avec un ou deux jeux. Et Google Plus, on aura l'occasion de regarder par la suite. Mais Android, par exemple, en 4 semaines, on pourra mettre un de nos premiers jeux, le poker en l'occurrence, pour ne pas le nommer, sur Android. Donc c'est prévu pour fin avril.
Donc ça, c'est grâce à votre plateforme. Quand tu as beaucoup travaillé avec Facebook et Sylvie m'a dit que tu travailles en direct, qu'est-ce qui fait, est-ce que tu as une astuce à nous expliquer qui sont en train de toujours s'arracher comment je peux générer du trafic sur Facebook quand tu fais tes bannières ou tes pubs sur Facebook pour driver sur .com, quelles sont les astuces que tu peux nous livrer?
Alors les astuces, je ne sais pas s'il y en a, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que nous, ça fait un an et demi maintenant qu'on investit très clairement au départ. Moi, je viens du marketing, j'avais fait un beau marketing plan très web, après 10 ans ou 12 ans d'avoir géré plusieurs sociétés, notamment de l'acquisition, de la monétisation. Quand j'ai commencé à investir sur Facebook, que je ne connaissais absolument pas en termes de plateforme marketing, en août 2010, j'investissais à l'époque 50 € par jour, donc juste pour tester. Quand j'ai vu les premiers résultats, j'ai acheté mon beau plan marketing. Et puis maintenant, on est un des gros investisseurs ou un des gros advertisers sur Facebook au mois. Et donc, on a grandi en même temps que l'équipe Facebook, je puis dire, qui est basée à Dublin, l'équipe européenne. Et donc, nous, on a une relation effectivement directe avec eux parce qu'on est des gros et parce que dès le départ, on a essayé d'être un petit peu intelligent et notamment dans la problématique de tracking. Ma première vraie préoccupation a été de « Ok, j'investis sur Facebook, c'est super, mais si je n'optimise que sur la base du CPC, est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut faire ?» Et donc, j'ai fait un peu le tour de la planète depuis mon bureau parisien pour essayer de trouver une solution à l'époque qui me permette de traquer, comme on pourrait le faire basiquement avec des bannières ou des plateformes d'affiliation. Et étonnamment, à l'époque, je n'ai pas trouvé de solution qui me permette de traquer le clic jusqu'à l'inscrit, jusqu'au chiffre d'affaires, donc le ROI. Et donc, on a décidé de développer, avec l'aide de Facebook qui nous a mis à disposition certaines API, notre propre solution de tracking. Et ça a changé la donne. En avril 2011, quand on a lancé l'application, on a doublé le chiffre d'affaires sans avoir à doubler l'investissement marketing, simplement parce que l'optimisation se faisait sur combien cette personne me rapporte versus combien le clic qu'elle a généré me coûte.
Le i dans ce cas-là, c'est aussi l'investissement dans le temps des programmeurs pour monter cette petite plateforme. Et là-dedans, tu estimes que l'ROI avec l'investissement développement a été très vite.
Je peux donner des exemples. Je parlais tout à l'heure d'avril. Nous, on a investi à l'époque, je me souviens, 35 000 livres sterling sur Facebook. Ces 35 000 livres sterling, au 15 mars de cette année, donc plusieurs mois après, nous ont permis de générer plus de 600 000 livres sterling en chiffre d'affaires. Donc c'est vrai que ça a vraiment changé la donne. Maintenant, il ne suffit pas de mettre un livre sterling pour que ça multiplie par 5 ou 6 ou 10 au bout de 2, 3, 6 mois. Mais en tout cas, c'est vrai que de ne plus être aveugle, de pouvoir traquer l'intégralité, même on traque même les invites, c'est-à-dire quelqu'un qui va s'inscrire via une publicité Facebook chez nous, même si elle ne consomme pas, elle n'achète pas, elle va néanmoins inviter des gens. Et donc, ça m'intéresse puisque ça réduit mon coût d'acquisition. Donc, en fait, on étudie pas mal de variables qui nous permettent d'optimiser nos pubs. Et le gros avantage avec Facebook aussi, sur l'investissement, c'est que, alors que mon plan marketing initial nécessitait de discuter avec Google UK, Google France, Google US, Google Allemagne à terme, là, je n'ai qu'un interlocuteur. Depuis mon bureau, je gère des pubs, alors essentiellement les pubs anglo-saxons, mais hier, j'ai lancé des pubs en Indonésie, en Malaisie, en Italie, en Afrique du Sud, sans avoir à passer par des intermédiaires et sans avoir à suivre des règles particulières locales, mais les règles de Facebook qui sont une bonne pub Facebook, c'est quoi? C'est d'abord une bonne image, puisque ça compte pour 70% du clic. C'est un bon titre, et idéalement un titre avec une question. Ça serait par exemple, vous aimez le blackjack ou fan de blackjack, point d'interrogation, avec une belle photo, sachant une belle image, sachant que le format de l'image est assez réduit. Et ensuite, le texte descriptif est important, mais ne compte que dans 10% du clic. Ça, ce sont les études Facebook qui le montrent. Donc, quand on sait ça, déjà, on gagne pas mal de temps.
C'est cool.
Et ce qui nous permet aussi, ce que permet la plateforme Facebook en termes d'investissement marketing, ce qui n'est pas négligeable, c'est de pouvoir investir des petits budgets et de pouvoir tester dans ces petits budgets des dizaines de pubs différentes, la bleue, la verte, la jaune, pour voir laquelle clique le mieux.
Tu fais du ABC, pas juste du AB.
L'alphabet n'est pas suffisant dans ces cas-là.
Alors, est-ce que tu peux nous parler des prix de CPC et tout?
Alors, les CPC, alors ça, c'est le sujet un peu à la mode depuis quelques temps. C'est vrai que sur Facebook, il y a de plus en plus de gens qui investissent, des grandes marques, des plus petites, le commerçant du coin aussi bientôt. Donc forcément, même si Facebook continue à se développer en termes de nombre d'utilisateurs dans les pays déjà matures, bah, forcément l'inventaire commence à stagner un peu. Donc par définition, les CPC augmentent. Sauf quand bah, vous avez une bonne expertise, j'espère qu'on l'a, et surtout quand on a un bon historique. Je compare, même si je ne pense pas que les gens de Google apprécieraient cette comparaison, je compare souvent Facebook à Google dans le fait que le coût du clic, dans le coût du clic, l'historique compte aussi sur Facebook. Et comme nous, on a un historique de 18 mois maintenant, ça aide aussi à maintenir un coût du clic qui, chez nous, enfin, très clairement, n'augmente pas. Parce qu'on va se développer sur de nouveaux pays où il y a moins de concurrence, donc le CPC est beaucoup plus faible. Donc en moyenne, même si aux États-Unis ça tend à augmenter, c'est saisonnier aussi, c'est-à-dire que la fin d'année 2011, le CPC a été 30% plus cher que quelques mois avant, et là c'est retombé, ça devrait remonter là pour le printemps.
C'est intéressant.
Alors, donc, sur le site des Asino, vous avez un blog. C'était pourquoi ce blog ?
Le blog, c'était pour... parce qu'au départ, c'était, on s'est dit il faut qu'on utilise tous les moyens de communication possibles. On n'avait pas forcément le budget adéquat pour faire des RP, même si depuis, on a un RP manager, un PR manager basé à Londres. Et puis, on a pris une société new-yorkaise pour nous aider sur le développement de la marque aux États-Unis. Donc, maintenant qu'on a un peu plus de sous, on se permet de dépenser. Mais c'est vrai qu'au départ, on a essayé de développer tous les réseaux possibles, les Twitter, les blogs, etc., etc., sans forcément toujours bien les maîtriser au départ. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas juste de mettre en place ce type d'outils, parce que ce n'est pas très compliqué. Par contre, c'est de les alimenter régulièrement. Et on a trouvé une façon astucieuse, et on n'est pas les premiers à l'avoir fait, mais d'alimenter tout ça, c'est l'engagement qu'ont certaines personnes dans notre communauté. Moi, je suis effaré presque, de constater qu'on a des gens depuis 18 mois qui jouent à nos jeux, des gens qui nettoient le mur pour nous.
Qui fait du travail pour nous.
Nous, on a décidé d'avoir un mur complètement ouvert, la plupart des sociétés.
Et les administrateurs, donc, aussi ?
Tout à fait. C'est-à-dire qu'on a un mur complètement ouvert. C'est-à-dire que n'importe qui peut poster, j'aurais tendance à dire, n'importe quoi sur notre mur s'ils ne sont pas contents, etc. etc. Alors qu'en général, une fanpage, on ne peut poster que si... l'opérateur, l'administrateur a posté quelque chose. Donc on répond à un poste, ou en tout cas, nous, depuis le départ, et ça a été un peu risky business, mais on s'est dit non, soyons les plus transparents possible. On a eu des problèmes techniques, on a eu des choses comme pour toute société technologique. On s'est fait pas mal allumer, mais à la fin, on a gagné une certaine légitimité, et puis surtout une certaine stickiness avec nos membres. Et ce qui fait qu'on a maintenant des gens, et depuis 18 mois, je vous invite à aller voir la page Yasino, tous les matins, qui vont dire bonjour en plusieurs langues, le soir au revoir en plusieurs langues, qui vont à la place de notre customer support, on a une dizaine de personnes qui gèrent le customer support, vont répondre, ben non, là en fait, si sur le blackjack, il faut faire ça pour gagner plus de points, ou ah non, là tu es un peu dur avec Yasino, oui effectivement, il y a un petit problème sur la roulette, mais regarde comme le jeu est bien et en plus gratuit, etc. etc. Donc il y a un vrai engagement de core gamers, souvent des Américaines de plus de 40 ans.
Moi, ça renforce l'idée qu'il faut quand même ouvrir ces pages. J'y crois et je promue cette idée.
La transparence est indispensable sur le web.
Et alors, parce que vous avez 8 pages, plus de 500 000 fans sur l'ensemble. Donc, qui gère ça chez vous ?
Alors, nous, étonnamment, on a très peu de community managers. On en a une à temps plein, qu'on a recrutée il y a 3 mois seulement. Avant, j'ai une communication manager qui fait donc plein d'autres choses, puisqu'on est très actif en email aussi. On est très actif sur d'autres, sur tout ce qui est enfin, communication au sens large du terme. Donc les pages fans, bien évidemment, c'est un carrefour essentiel pour nous. Mais étonnamment, on gère ça avec peu de personnes, aussi parce qu'on a 8 pages, mais il est vrai qu'on ne pousse à l'heure actuelle que 2 jeux. Donc il était évident qu'à partir du mois prochain, on va pousser 1 ou 2 jeux supplémentaires, il va falloir embaucher, parce que c'est un travail vraiment de tous les instants pour faire vivre cette communauté. Et donc voilà, c'est une personne et demie, je dirais, à l'heure actuelle, pour 2 grosses pages sur Facebook.
Ce qui n'est pas forcément un standard pour les autres, si c'est en fonction de la communauté que vous êtes. Parce que si vous avez une communauté qui fait de la gestion de la modération pour vous, ça enlève votre boulot à vous. Et puis, c'est notre état d'esprit.
Il y a un autre élément aussi qui est à prendre en compte, qu'on a vraiment vu, l'évolution ces 12 derniers mois, c'est qu'il y a de plus en plus de sociétés qui proposent des solutions techniques qui facilitent la gestion des fanpages. Je vais vous donner un exemple. Bien sûr, il y a des gens, il y a des petits concurrents, des petits malins qui essayent de poster des pubs pour leur propre slot, ce qui est légitime. Nous, on ne le fait pas. D'ailleurs, je commence à le regretter. Et donc, il y a des systèmes qui permettent maintenant, non pas de blacklister, mais en tout cas d'identifier sémantiquement via un système de mots-clés, mais ça pourrait être aussi des propos, par exemple, qui n'ont pas lieu d'être tenus sur nos plans, éthiquement non responsables, on va dire. Eh bien, ça, c'est des outils. Avant, il fallait checker tous les postes. Donc, on a une petite équipe quand même d'une dizaine de personnes, dont 5 qui sont sur le customer support, c'est-à-dire de répondre aux postes liés à des problématiques. Ben voilà, j'ai acheté des chips, mais je n'ai pas mes chips, etc. etc. Mmh. Donc, il fallait revoir tous les postes un à un, ce qu'on continue à faire. Mais maintenant, on a des systèmes de filtres, soit certains qu'on a développés en interne, soit des solutions absolument très bon marché, notamment françaises parfois, qui permettent de faire ce type de filtre et qui permettent même de faire bien au-delà. La première fois qu'on a fait une grosse opération de promotion sur une page Facebook, c'était avec une société bien connue, une agence qui s'appelle Wildfire, qui est une agence de San Francisco, qui nous a coûté à l'époque 10 000 dollars, ce qui nous paraissait très peu par rapport à la prestation. Maintenant, ces mêmes types d'opérations, il y a plein de software qui permettent de le faire pour quelques centaines de dollars. Donc en un an, on a vu que le marché s'était vraiment ouvert. Toutes les solutions ne sont pas bonnes à prendre, mais en tout cas, un bon community manager doit aussi savoir identifier et utiliser les bons outils à sa disposition.
Je suis entièrement d'accord. Une dernière question, Guillaume, c'est les marques, parce que la plupart des personnes qui écoutent ces podcasts sont généralement dans le marketing quelque part. Comment est-ce qu'une marque pourra participer avec Yazino?
Alors, c'est vrai qu'on est sur une thématique, les jeux, c'est très à la mode. Maintenant, c'est vrai qu'on est sur des jeux essentiellement, pas exclusivement, de casino. Donc, ça fait toujours un petit peu peur aussi. Néanmoins, depuis le départ, il se trouve que, pour l'anecdote, même si la société est essentiellement anglo-saxonne, la plupart de nos actionnaires sont français, des gens qui n'ont pas forcément grande relation avec le web. Mais on a, par exemple, des gens qui ont fondé des grosses sociétés comme Kukai, comme Desange. On a la famille Lapidus, notre board aussi, qui est un investisseur majeur chez nous et même un petit peu opérationnel. Donc, c'est des gens qui ont un sens créatif, qui ont le sens de la marque aussi. Et dès le départ, il a été convenu que Yazino puisse brander son site, ses tables, notamment dans l'objectif de gérer des communautés. Donc moi, je veux créer ma communauté de Français à Londres, quand j'y suis, pour pouvoir jouer avec des Français, par exemple. Ou alors, je pourrais aussi souhaiter créer ma communauté avec des gens de mon ancienne école.
Ou les fans de PSG.
Voilà, oui, ou plutôt de Marseille, dans mon cas. ou alors, par exemple, aussi... les fans de sport, par exemple, et donc, ou alors ceux qui aiment, dans la mode, par exemple, ceux qui sont fans de telle ou telle mode, pouvoir créer mes tables et à cette occasion, effectivement, faire brander tout ça et permettre aux marques d'avoir un nouveau canal de communication. C'est ce qu'on appelle l'in-game advertising, en quelque sorte, et c'est quelque chose qu'on va vraiment pousser dans les mois qui viennent.
Guillaume, c'est un plaisir d'être avec toi, t'écouter avec ta passion, tes connaissances. Toujours un plaisir de te suivre. Donc, pour quelqu'un qui voudrait te suivre ou te contacter, si jamais, comment il peut faire?
Guillaume at yazino.com, YAZINO. Vous devriez pouvoir me trouver sur Twitter, mais c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Je ne suis pas très, très actif. Mais Guillaume at yazino.com, n'hésitez pas, avec grand plaisir.
Right, super. Guillaume Sampic de Yazino, un grand plaisir de parler. À la prochaine.
Alors merci de nous avoir rejoints pour cette émission de Minter Dialogue en français. Vous trouverez les show notes sur minterdial.fr. Vous pouvez également vous souscrire à mon show Minter Dialogue en français sur iTunes, où vous trouverez d'autres émissions dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'internet en France, dont des personnages comme Cédric Georgie de TechCrunch, Vincent Ducré, conseiller internet au gouvernement, Jacques Lorme de Leroy Merlin ou encore Anne-Sophie Baudry, désormais chez Facebook. Sinon, vous pouvez me retrouver sur mon site anglophone, themindset.com, THEMYNDSET, où la marque se rend personnelle, où j'écris sur les enjeux des marques et le marketing digital. Vous pouvez également souscrire à mon newsletter anglophone sur The Mindset ou bien me suivre sur Twitter, @MDIAL. Faites du podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique, c'est mobile. S'il vous plaît, partagez ou tweetez si cette émission vous a plu. Bonne continuation, où que vous soyez.
The Jim Stroud Podcast explores the discoveries and trends forming the future of our lives. Brain-to-brain communication, robot bosses, microchip implants for workers, and artificial intelligence replacing human workers are all happening now. If you want to know what's happening next, subscribe now to the Jim Stroud Podcast.